Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre de votre émission Entre nous, nous recevons pour vous Suzy Daniel, qui est originaire de l'île Maurice et qui vit en métropole depuis 28 ans. Elle travaille aussi depuis 2003 dans la Caraïbe, dans le ministère de Relations d'aide. Elle travaille évidemment en collaboration avec un pasteur de la Guadeloupe. Alors, c'est une ex-auxiliaire péricultrice, fonctionnaire de l'État public. Alors, c'est un petit peu ce que nous savons d'elle. Alors, Suzy Daniel, bonjour.
Bonjour. Bonjour, peuple martiniquais. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour moi une très grande grâce ce matin de pouvoir vous parler sur la radio FM Espoir.
Alors, avant même de te demander quoi que ce soit en ce qui concerne ton témoignage et l'origine de ta présence ici, alors, on voudrait un petit peu que tu puisses nous parler de l'île Maurice.
Alors, l'île Maurice, c'est une île comme la Martinique, la Guadeloupe, les îles Caraïbes, mais nous nous situons dans l'océan Indien, à côté de l'île de la Réunion, Madagascar et Seychelles. C'est une île assez grande parce que nous comptons environ de 2 millions d'habitants au jour d'aujourd'hui. Et donc, c'est une île aujourd'hui république qui a été colonisée par les Français et aussi par le Commonwealth, les Anglais. Donc, depuis 1972, l'île Maurice a eu l'indépendance. Et depuis quelque temps, je ne me souviens pas tellement, mais nous sommes indépendants républiques. Voilà.
Tout à fait. Alors, nous savons que tu as eu tout un parcours avec Dieu et aujourd'hui, tu as un ministère bien défini. Mais avant d'en arriver là, il y a eu quand même tout un processus, tout un travail. Et je crois qu'il est important pour nous de commencer par le commencement. Et c'est pour cela que je vais te demander, mais dans quelle famille tu as évolué? Dans quelle famille tu as grandi? Tu as pris naissance? Est-ce une famille modeste? Est-ce une famille aisée?
Alors là, c'est une question assez délicate, mais pour la gloire de mon Jésus, pour la gloire de Dieu, je vais vous raconter un petit peu cette femme que vous avez en ligne ce matin, cette femme qui s'appelle Daniel Suzy, qui est née à l'île Maurice. Et puis, comme bien souvent, je parle aux églises qui m'invitent, je parle aussi dans mes enseignements que j'apporte aux églises, on ne choisit pas ses parents. On est né là, mais on n'a pas choisi. On peut choisir ses amis, que je dis souvent, mais on ne choisit pas ses parents. Je suis née dans une famille assez pauvre et une famille chrétienne, catholique, très religieuse. J'ai fait ma communion, ma confirmation, j'allais à l'église tous les dimanches et malheureusement, j'ai été une enfant battue. J'ai connu toutes sortes de maltraitances dans cette famille. Je ne suis pas là à faire le procès de mes parents parce que mes parents ne sont plus sur cette terre. Ils sont décédés. Mais venant d'une famille comme ça, avoir été élevée dans la maltraitance, une enfant battue, en plus l'aînée d'une famille de 6 enfants, je peux vous dire que c'est par moments, je ne voulais plus vivre.
Alors, sans vouloir t'interrompre, tu dis que tu as été élevé dans une famille, tu étais l'aîné et tu étais battu. Donc, je suppose que cela n'a pas dû être facile de vivre cela au quotidien. Donc, comment tu faisais pour t'en sortir? Est-ce qu'il y avait des gens à qui tu pouvais te confier? Est-ce que quand tu étais battu, tu pouvais te réfugier en quelque part? Comment tu faisais?
Non, c'est-à-dire que, pour commencer, très très jeune, à l'âge de connaissance 7 ou 8 ans, je me suis rendu compte que mon père était alcoolique et qu'il battait ma mère. Donc c'était un homme très violent sous l'effet de l'alcool. Quand il était normal, c'était un papa chéri. Voilà, c'était un névrosé, un malade, comme beaucoup d'autres. Il y en a ici, mais voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'était un papa alcoolique. Mais ma maman elle-même, je pense qu'elle était battue. On ne peut reproduire ce que nous avons vécu. Et donc, très très jeune, elle a commencé à me frapper, plus ma mère, parce que étant l'aînée d'une famille de 6 enfants, donc je n'avais pas le droit aux bêtises, comme tous les enfants qui font des bêtises, qui grimpent sur les arbres et tout ça, je n'avais pas le droit. Au contraire, j'étais tenue à garder les autres qui sont derrière, et donc à chaque fois qu'il faisait une bêtise, c'est moi qui prenais beaucoup de raclées. Alors ces coups se passaient en public, hein. Au contraire, elle prenait plaisir de me frapper en public. Comme tu sais, ma sœur, dans les îles, il n'y a pas des grandes clôtures. Les clôtures sont limitées. Donc, nous étions accolés avec des voisins. J'avais des amis qui avaient mon âge. Et donc, pour elle, c'était un plaisir, au contraire, de me frapper devant tout le monde et de me punir. Et donc, comme j'avais de longs cheveux indiens, donc, elle prenait plaisir de prendre mes cheveux à plusieurs tours dans sa main et elle me frappait. J'ai beaucoup souffert, beaucoup.
Mais comment tu as vécu cette humiliation? Est-ce que cela n'a pas développé en toi de l'amertume, de la haine? Parce que c'est pas facile de subir cela au quotidien.
Oui, je ne me mets pas. Mais je n'ai jamais fait de tentative de suicide. Mais très jeune, j'ai demandé au Seigneur, « Bon Dieu, viens chercher moi. » En créole de l'île Maurice, hein. « Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, viens me chercher. » Et pour en finir avec cette vie, je n'aimais pas les gens. Je m'aimais pas moi-même. Et j'étais comme une esclave, j'étais tenue à accomplir les tâches bien, bien déterminées et puis aller dormir très tôt pour recommencer le lendemain. Et je faisais tout pour plaire à ma mère, pour pas prendre des coups. Mais je prenais quand même.
Ça, je comprends. Mais est-ce que, en quelque part, cela ne t'a pas perturbé au niveau de ta scolarité?
Non, mais oui, bien sûr. Mais comme on m'a fait quitter l'école à l'âge de 12 ans, on m'a dit que je n'avais plus le droit d'aller à l'école. Pour moi, c'était clair et net. Et puis, comme dit le psaume 139, je suis une très merveilleuse créature en Jésus. Un jour, j'ai découvert ça. Mais j'étais jolie, petite fille indienne. Mais pour cette famille, j'étais la plus moche et la plus noire. Et c'est-à-dire que j'ai porté malheur. Et donc, j'ai porté tout ça jusqu'au jour où j'ai connu le Seigneur.
Mais est-ce que cette carence au niveau de ta scolarité ne t'a pas gênée dans ton adolescence, dans ta relation avec les autres?
Oui, je me suis sentie humiliée parce que à l'âge de 12 ans, mes parents m'ont envoyé travailler chez les Blancs, les mulattes, comme on appelle ici dans la Caraïbe. Je pense que toutes les îles se ressemblent. Et à l'âge de 12 ans, j'ai commencé à travailler, à garder un gros bébé. Et pour vous faire rire, mais il faut pas pleurer, hein, ceux qui s'écoutent l'émission. Mon témoignage, c'est pour vous encourager, vous femmes qui avez subi les mêmes choses et que Dieu peut guérir. Peut vous guérir. Je suis complètement guérie. Mais là, je suis encore. Je raconte l'histoire de mon vécu, de mon enfance. D'accord? Et un jour, pendant que j'ai gardé ce bébé, le bébé est tombé et il a pris une bosse, ma sœur. Et donc, j'ai vu ma mère et mes grands-mères faire un truc vraiment grand-mère, hein. On appliquait une pièce sur la bosse. Et moi, j'ai pris une pièce de monnaie dans la maison de ces Blancs qui étaient riches. J'ai posé sur la tête de l'enfant, j'ai appuyé très fort. Mais comme l'enfant était blanc, donc ça a marqué. Bien sûr, un gros bébé, je ne pouvais pas porter. Mais j'étais tenue à travailler pour amener ces 4 sous à la maison pour aider mes parents. Et donc, l'enfant est tombé. Bien sûr, la pièce de monnaie qui a fait l'affaire. Mais l'enfant a marqué. Eh bien, ça a marqué le front de l'enfant. Il y a eu un gros hématome. La voilà-t-il pas que la dame, elle est rentrée, elle a vu son enfant et elle a pris une ceinture, la ceinture de son mari, et elle m'a frappée. Elle m'a dit, je vais te corriger, je vais te montrer comment garder un enfant.
Et est-ce que tes parents en ont été informés?
J'ai caché parce que je savais, si ma mère savait ça, elle allait me retirer et en me disant toujours que je suis un incapable. Parce que pour eux, j'étais un incapable, j'étais un raté de la vie. Et donc, je prenais ces coups-là et j'ai caché ce coup-là. Et jusqu'au jour, à la douche, ma mère, elle a vu.
Mais ce traitement qu'on t'a fait subir pendant ton travail, est-ce que c'était juste parce que cet enfant était tombé ou bien c'était quelque chose que tu subissais au quotidien? Est-ce que c'était des gens qui t'insultaient, qui te méprisaient? Comment tu étais considérée?
C'est-à-dire que j'étais bonne. Lui, il était footballeur professionnel. J'ai oublié, j'ai été guérie, mais j'ai encore l'image maintenant que je parle. Ce patron, lui, il était footballeur professionnel. Sa femme, enseignante, je crois. Hein? Et donc, j'ai resté dans la cuisine. Je n'avais pas accès dans cette grande maison. À part quand il partait travailler, je me débrouillais, je m'arrangeais pour faire dormir l'enfant et pour astiquer toute la maison. J'étais tenue, comme c'est une malédiction que j'avais héritée toute petite de mon enfance, et la maison, je subissais la même chose. Et puis, chez ces gens-là, j'étais tenue à faire les choses à carreau. Pas de bêtises. Je n'avais pas le droit aux bêtises. Voilà, j'étais tenue à exécuter le travail parfait pour pas recevoir des coups. Mais c'était une fois, hein. La dame, elle m'a pas retapée, hein, après, parce que j'étais parfaite.
Mais tu étais irréprochable.
Irréprochable. J'ai parfaite. Non, personne n'est parfait. Je faisais ça pour pas avoir des coups.
Tout à fait, ça je comprends.
Oui.
Mais alors, combien de temps tu es restée justement dans ce travail?
Je suis restée dans ce travail, je pense, 1 an ou 2.
1 an ou 2.
Oui. Après, j'ai pu grandir, j'ai pris du poids parce qu'à l'âge de 12 ans, j'étais mince, j'étais frêle et la nourriture que je pouvais manger, je laissais pour mes petites sœurs et frères. Et donc, comme ma mère, c'était une belle femme, beaucoup de courage, beaucoup de force, mais comme mon père était malade, était jaloux, ma mère pouvait travailler, mais elle était séquestrée elle-même, d'accord? Et
oui.
Donc, voilà, moi, je travaillais, et puis, voilà, et quand j'avais faim, j'allais manger des canards sucrés, c'était très, très bon. Mais 4 heures, c'était des canards à sucre, hein.
Eh ben heureusement qu'il y avait les cannes à sucre.
Oui, voilà.
Oui. Alors, tu as dit au départ que tu as été élevée dans une famille catholique, que tu as fait ta première communion, ta confirmation, tout cela. Est-ce que tes parents t'obligeaient à prier? Est-ce que le catholicisme était vraiment pratiqué dans ta famille?
Oui, catholique le dimanche, mais comme je viens des origines, ma mère, elle est originaire de Calcutta, de l'Inde, et mon père de Pondichéry. Donc, ils sont nés à l'île Maurice, hein, mais il y a des origines, les arrière-grand-mères et tout ça. Donc, du côté de mon père et du côté de ma mère, ils pratiquaient l'occultisme. Qui dit l'occultisme, c'est-à-dire que ma mère adorait la Vierge Kali, Marie-Aimée, elle faisait tous les systèmes de l'Inde dans la semaine. Donc le vendredi, il y avait un carême à la maison, il y avait des fleurs et des sacrifices à apporter à ces dieux. Il y avait plusieurs dieux dans notre jardin, il y avait des grottes, mais toujours étant catholique, on allait à l'église le dimanche. Mais ça n'empêchait pas que quand ça n'allait pas, Ma mère m'emmenait voir des sorciers qu'on appelle ici, j'ai appris maintenant depuis 2003 que je travaille dans les Caraïbes, on appelle les gardes des affaires.
Tout à fait.
Alors donc, on n'avait pas l'argent pour vivre, on n'avait pas l'argent pour acheter de la nourriture pour nous, mais ma mère trouvait toujours de l'argent pour payer ses sorciers, pour faire des passes et tout ça. Elle-même, elle a été consacrée par sa maman. Sa maman a été consacrée par sa grand-mère. Et moi, j'ai été aussi consacrée à l'âge de 12 ans.
Donc, tu as été initiée à cette forme d'occultisme.
Voilà. Et donc, très, très vite, j'étais tenue à pratiquer, à faire des prières, des rites. Mais j'allais à l'église les dimanches.
Mais toutes ces pratiques, est-ce que ça n'a pas eu une influence sur ton comportement, sur ta vie?
Beaucoup. Beaucoup, parce que j'ai communiqué les choses à d'autres amis. Je faisais des séances spiritistes à la maison. J'étais entrée dedans. Et pour moi, c'était normal, parce que ça vient de ma mère. Comment une maman peut mentir? Et bien souvent, ma sœur, en ce moment, je vois la publicité du rhum Dillon, fière de ses racines. Moi, je ne suis pas fière du tout de mes racines. Je répète, je suis pas en train de faire le procès de mes parents. J'ai pu emmener mon père au Seigneur avant sa mort. C'est une grâce. Mais combien des femmes, combien d'autres personnes qui sont encore liées comme moi, comme mon passé que je suis en train, et qui sont cachées sur la Martinique, sur la Guadeloupe, dans toutes les Caraïbes, dans le monde, même dans la France. C'est des choses taboues qu'on ne peut pas, qu'on n'en parle pas. Mais on se cache derrière son livre de messe. Même il y a des personnes qui se cachent aussi derrière une Bible, qui sont encore liées dans l'occultisme.
Mais à quel moment tu as reconnu que toutes ces pratiques occultes, c'était des choses vraiment qui venaient du diable, c'était des choses négatives, des choses néfastes? À quel moment tu as reconnu que c'était quelque chose qu'il fallait délaisser?
Un jour, j'ai découvert, quand j'ai connu le Seigneur, que je vais retourner après, Jérémie 33:3 qui dit « Invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Toute petite, avec ma sœur cadette, on a 11 mois d'écart. C'est-à-dire, j'étais encore bébé quand ma mère est tombée enceinte de ma sœur. Nous sommes comme deux sœurs jumelles et on s'est mis à prier Jésus. J'ai dit, Seigneur Jésus, si vraiment tu existes, je sens que tu n'es pas là dans ces trucs occultes. C'est Dieu qui a quatre mains. Il y avait un Dieu qui avait un serpent dans son cou. Il y avait Shiva et Krishna. Il y avait plusieurs dieux. J'ai dit, Seigneur Jésus, mets-toi à l'église, le mon père, comme on appelle le prêtre, qui parle, tu as donné ta vie pour sauver l'humanité. Mais est-ce que tu peux te révéler à moi et à ma famille, à ma maman? Et donc, très vite, ma mère est décédée à l'âge de 39 ans, foudroyée par un étouffement, un 14 heures l'après-midi. Ma mère a laissé sa machine branchée. La cocotte était sur le feu et donc moi je n'étais pas à l'école parce que je n'avais pas le droit et tout ça. J'étais jeune et donc ma mère est décédée là. Et donc elle m'a laissé tous les enfants derrière. Et donc très très jeune, j'ai assumé les 5 autres qui étaient derrière moi. Et après la mort de mon père, ma mère, mon père est tombé dans l'alcool, dans la dépression. Et me voici encore contrôler toute cette maison.
Mais quand ta mère est morte, tu étais encore toute jeune.
Oui.
Comment tu as vécu cette mort, ce deuil? Comment tu as fait pour vivre cela?
La personne la plus précieuse qui comptait sur la terre pour moi, je ne connaissais pas Jésus, c'était ma mère, même si elle me battait. Même si elle me battait, parce que vu que ma mère subissait la violence conjugale avec mon père, elle était une femme séquestrée. Par compassion pour ma mère, je subissais sa haine et toutes les violences. Et après, quand j'ai vu ma mère morte de cette façon et que j'ai tourné le dos, que j'ai autour de moi, j'ai vu mes frères et sœurs, mon dernier frère qui avait à peine 6 ans, j'ai dit, Seigneur, Dieu n'existe pas. Donc, j'ai cessé de prier, j'ai arrêté tous les systèmes de tout avec tous ces dieux. J'ai interdit mes sœurs de prier. Donc, il y avait un étagère, il y avait un Christ, un crucifié, il y avait la Vierge, il y avait Notre-Dame, Saint-Joseph. J'ai mis un drap dessus. J'ai dit, plus jamais je vous prierai parce que il y a pas, Dieu n'existe pas.
Mais comment tu as fait pour surmonter cela? Parce que il y avait quand même un vide. Bon, ta mère, même si elle te battait, mais tu savais qu'il y avait un parent sur lequel tu pouvais compter. Mais maintenant que tu ne pouvais compter plus sur personne, est-ce que c'était pas difficile parce qu'il y avait quand même un vide à combler?
Non. Pour moi, j'étais déterminée, j'attendais la mort avec toutes mes sœurs et frères. Et je peux vous dire, chers auditeurs, je sais que j'ai des amis qui captent Radio FM Espoir par Internet en France, mes amis à Paris. Et vous êtes choqués, peut-être je n'ai jamais donné mon témoignage comme ça. Mais aujourd'hui, je suis fière. Et ma sœur, tu es une bénédiction pour moi. Et je veux pas. Excusez-moi.
Alors, nous allons faire une courte pause musicale. Vous avez dû constater qu'il y a beaucoup d'émotions et c'est tout à fait normal. Après un tel témoignage, c'est compréhensible. Alors, nous faisons une courte pause musicale. Alors, nous poursuivons. Vous avez dû constater qu'il y a beaucoup d'émotions, mais c'est tout à fait normal quand on se replonge dans le passé. Et je crois que c'est surtout quand on considère la grâce de Dieu envers nous. Et je crois que Suzy a beaucoup à nous dire en ce matin en ce qui concerne la grâce de Dieu, parce que c'est vrai qu'elle nous a parlé de son passé, de son enfance, mais tout ne s'est pas arrêté là, puisque aujourd'hui, Dieu l'utilise puissamment dans un grand ministère pour la relation d'aide, pour des guérisons, pour des délivrances. Et c'est là vraiment que Dieu est magnifique pour elle. Alors, nous allons poursuivre et puis nous allons lui demander à quel moment elle a rencontré Jésus-Christ et puis comment elle a évolué, comment Dieu a fait toute une œuvre en elle, puisque aujourd'hui, c'est elle qui tend la main aux malheureux. Alors, Suzy, tu nous as parlé de ton enfance, tu nous as parlé de la mort de tes parents. Il fallait faire face à tout cela et c'est vrai qu'à un moment, tu as rencontré le Seigneur. Alors, parle-nous de ce moment où tu as rencontré le Seigneur.
Oui, comme je disais tout à l'heure, il n'y avait plus d'espoir. Quand il n'y a plus d'espoir, donc on attend la mort. Et donc, pour vous dire que la puissance du malin, le diable existe, mais notre cher Jésus est plus puissant que lui. Il a été chassé du ciel. Il est arrivé sur la terre pour séduire l'humanité tout entière. Mais la Bible dit que à ceux qui croient, à ceux qui ont reçu la parole de Dieu, et à ceux-là, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et donc, dans cette attente, dans cet désespoir toujours, et voilà, une femme est venue me parler de Jésus. Cette femme, c'était la grande sœur de ma mère. Elle avait à peine quelques mois de conversion. Personne ne savait. Elle se cachait parce qu'elle connaissait le combat dans cette famille par rapport à la pratique occulte. Et cette femme est venue me parler de Jésus. Et mes chers amis, peuple martiniquais, Caraïbes, tout le monde qui écoute ce témoignage. Comment, après avoir vécu une telle enfance, un jour, quelqu'un peut venir te parler de Jésus? C'est pas possible. J'ai dit, écoute, tu sors de ma maison, toi et ton Jésus, tu pars. Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, comment pourrait-il un enfant comme moi avoir connu autant de souffrances? Et là voilà, toute jeune, je n'ai plus de maman. La femme, la personne qui comptait le plus pour moi, et tu viens parler de Jésus. Elle est partie prier, mais c'est après qu'elle m'a donné son témoignage, elle a jeûné pour moi. Et la deuxième tentative, non. La troisième tentative, j'ai accepté. Et je lui ai dit que j'étais tout en deuil. Hein. Dans la religion catholique, il y a un temps de deuil. Ma robe était toute noire. Et elle m'a dit, tu viens. J'ai dit, je vais à l'église avec toi. Mais je te préviens, si quelqu'un me touche, si quelqu'un me regarde, vous aurez des sérieux problèmes avec moi. Je t'accompagne pour te faire plaisir. Parce que nous, moi et ma famille, mes sœurs, nous allons mourir. J'en passe les détails parce que le diable s'est révélé un matin dans mon miroir. Il a parlé avec moi audiblement dans ma cuisine et il m'avait même donné une date pour ma mort. Mais il est menteur. Aujourd'hui, il est vaincu. Il est déjà vaincu, frères et sœurs, dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il suffit de croire seulement. Et cette fois-ci, la troisième fois, c'était bon. Personne ne m'a touchée, bien-aimée. Mais ce jour-là, c'était un mardi. Je ne me souviens pas quelle date, mais c'était un mois d'août 77. La personne qui m'a touchée dans cette église, c'était Jésus. Et j'ai fait trois bancs en avant. Et je suis tombée par terre sans connaissance. Et le Seigneur Jésus a touché ma vie. Il m'a transformée totalement jusqu'aujourd'hui. Il y a eu des hauts et des bas. Le diable s'est déchaîné. Il y a eu une confrontation de deux royaumes. Le royaume de ténèbres où j'étais et le royaume de lumière qui est arrivé. Et tantôt le diable me disait, et quand j'ai connu le Seigneur ce jour-là, dans la semaine, il s'est déchaîné. Et là, j'ai vu la puissance du diable, mes amis. Mais Jésus est plus puissant, ma sœur. Alléluia. Et j'ai combattu. Et la Bible dit de résister-lui. Mais résister-lui avec une foi ferme. Il s'enfuira loin de toi.
Tu as dit précédemment que le diable t'a parlé à voix audible et qu'il t'a fait comprendre que toi et ta famille, tes frères et sœurs, que vous alliez mourir. Est-ce que tu avais des manifestations? Est-ce qu'il y avait des visions? Est-ce que tu avais des apparitions?
Alors moi, quand j'ai expliqué ça aux gens de mon entourage, malgré que j'ai connu l'évangile, j'étais entourée par des pasteurs et tout ça, sauf les pasteurs qui me croyaient, mais les gens me disaient que j'avais l'hallucination, que j'étais folle.
Et c'est pour cela que j'ai posé cette question-là, parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans ton cas et qui ont peur de le dire parce que ils pensent qu'ils ne seront pas, enfin qu'ils seront mal compris, qu'on ne va pas les accepter. Donc je crois qu'il faudrait que tu expliques un petit peu comment ça se passait.
Alors, tout d'abord, je vais dire à ces gens-là, je suis Suzy Daniel. Vous mettez contact avec Radio FM Espoir. Je me ferai un plaisir de vous écouter. Je suis venue pour travailler en tant que disciple de l'Éternel. Un disciple obéit son maître. Et donc, ces manifestations existent. Et des portes claquées, des pas, voilà. des odeurs de mort, on me touchait mes cheveux. On jouait aussi avec mon bébé qui était dans le berceau. Parce que après, j'étais mariée, hein, je me suis mariée très jeune. Et ils s'amusaient. Il me réveillait la nuit. Et bien souvent, j'avais un serpent sur mon corps. Et un jour, j'allaitais mon bébé. Et j'ai eu un flash que ce n'était pas mon bébé qui était dans mes bras, qui suçait mon sein. C'était un serpent.
Donc, tu t'es mariée avant ta conversion?
Oui.
Et comment ça s'est passé? Est-ce que ce n'a pas été difficile pour toi d'accepter un homme dans ta vie après tout ce que tu as vécu?
Non, c'était la fuite dans ce mariage. Ce mariage, c'était une grande bénédiction, entre parenthèses, pour moi. C'était à partager la douleur à deux. Voilà. J'avais mon fiancé qui partageait. Et donc, ma souffrance. Il a été le mari, le père, le consolateur, parce que Jésus n'était pas là. Je ne connaissais pas Jésus. Il était aussi le père de mes petites sœurs et frères.
Donc, en quelque part, tu as pu lui confier tout ce qui s'est passé dans ton enfance.
Oui.
Tu as pu partager avec lui,
oui,
toute cette douleur que,
oui,
tu as vécue.
Là, ça fait 32 ans depuis que je suis mariée.
Donc, en quelque part, tu sentais qu'il t'apportait une certaine sécurité.
Oui, oui, mais pas comme Jésus, hein.
Ah ben oui, évidemment, évidemment. C'est évident.
Voilà, et donc, après ce parcours de séparation, ce combat entre les deux royaumes, et le royaume de Jésus a remporté la victoire, le royaume de Dieu. Et si j'ai quelque chose à dire aux femmes, aux personnes qui sont liées encore dans des choses comme moi j'ai connues, courez, laissez ces choses. Il y a un prix à payer. Mais si tu prends la décision de chercher Jésus est la solution pour ta vie.
Mais est-ce que tu ne vivais pas dans une sorte de climat d'oppression? Parce que comment tu faisais pour vivre cela? Est-ce que tu n'avais pas peur? Parce que ressentir toutes ces présences, c'est pas avoir la sensation que c'est quelqu'un d'autre qu'on a à ses côtés. Est-ce qu'il n'y avait pas un climat de frayeur? Est-ce que c'était facile de vivre cela?
C'est-à-dire que comme... On m'a fait comprendre dans ce passé, là encore où j'étais esclave, que je n'avais pas le droit aux fautes et aux bêtises. Pour moi, aller à l'excellence, c'est de remporter la victoire, cette fois-ci, au nom de Jésus, afin que toute ma famille qui me disait, du côté de ma mère et de mon père, à part que cette tante qui était... nouvellement convertie, que je devais retourner voir les gardes affaires, sinon que j'allais mourir. Mais pour approuver, pour affronter cette pression, alors que moi j'avais décidé que Dieu n'existe pas, mais en quelque sorte je savais que Jésus existait. Tu comprends, ma sœur?
Oui.
Et pour moi c'était la victoire total, et que Jésus, il n'avait pas le choix. Une choix qu'il avait, vous savez, il faut être comme des enfants pour entrer dans le royaume de Dieu, d'accord? J'étais comme Jacob, je ne partirai pas, je ne te lâcherai pas tant que tu m'aies béni et que tu fasses éclater ta gloire dans ma vie.
Mais est-ce que cela a pris beaucoup de temps pour mettre un terme d'une manière définitive à toutes ces manifestations occultes dans ta vie? Est-ce que cela t'a demandé beaucoup de combats?
Oui, il y a une seule chose. La première des choses, c'est qu'il faut être encadré par des serviteurs de Dieu, des femmes de prière et tout ça. Donc j'étais un petit peu encadrée, mais beaucoup des pasteurs et même des femmes qui se disaient affermi dans la prière, avait peur de cette situation, avait peur de Suzy Daniel, avait peur de notre maison. Mais il venait quand même, mais il s'investissait pas. Mais je peux te dire, ma sœur, la grâce imméritée de Dieu. Très, très jeune, le Seigneur m'a révélé qui il était. Et je n'avais pas le choix si ce n'est que prier. J'étais devenue une folle dingue de prière. Voilà le mot qu'on me disait, prier. Et aujourd'hui, j'enseigne sur la prière. La prière, c'était la première chose que je faisais dans ma vie. Si tu veux, en quelque sorte, ma sœur, c'est pour me venger de ces dieux. Parce que quand j'étais dans l'autre monde, je passais du temps à prier, à réciter des rites, des livres, des choses qui étaient diaboliques. Mais maintenant que j'ai rencontré ce Jésus, en quelque sorte, c'était la rage, la colère de se venger de tous ces dieux-là et en priant Jésus, Jésus-Christ de Nazareth.
Alors, on va un petit peu bifurquer, un petit peu changer de sujet, mais on reste toujours dans le cadre du témoignage. Alors, nous savons aujourd'hui que tu es devenue une assistante sociale. Et je pense que ça intrigue beaucoup. Oui, parce que dans la mesure où tu nous as dit que tu as arrêté ta scolarité à l'âge de 12 ans, donc c'est quand même quelque chose d'extraordinaire d'être, en fait pas assistante sociale, auxiliaire de péricultrice. Donc, comment tu as fait pour poursuivre tes études et pour avoir quand même un bon niveau social dans la société?
Après la rencontre avec le Seigneur, comme je viens de dire, j'ai dit, Seigneur, tu n'as pas le choix. Il faut que tu élèves ton nom. J'ai été guérie, délivrée dans les 5 années, hein, en 5 ans. Et j'ai retrouvé mon identité. J'ai retrouvé qui j'étais réellement, cette femme qui s'appelait Suzy Daniel. Et donc, par conséquence, concours de circonstances, pour oublier ce passé, mon mari a été muté. Par la société qu'il travaillait. Mon mari, c'est un bâtisseur, un maçon de bâtiment, par la société Nord France. Et voilà, j'ai suivi mon mari. J'en passe le détail. Et me voilà retrouvée en France. Mais vu mon enfance, vu cette révolte, pour moi, j'exprimais toujours le désir de travailler auprès des enfants. En quelque sorte, pour être le secours, le sauveteur, pour dire aux enfants que tu n'as pas le droit d'être battu, que tu n'as pas le droit. Donc, j'ai prié ma sœur. J'ai dit, Seigneur, ouvre une porte là où je peux, ou employé de maison, ou nurse et tout ça. Et donc, j'ai commencé par travailler employé de maison. Et puis, des bouches à oreille, j'ai compris que j'avais droit à faire une validation des acquis. Toujours prier. La validation des acquis m'a donné le résultat au cours de ce test, après ce test, un niveau BEPC. J'ai dit, quoi? Un niveau BEPC? Avec un niveau BEPC, tu peux rentrer pour te faire préparer ou être soignante ou auxiliaire et tout ça. J'ai dit auxiliaire et donc j'ai fait la préparation, j'ai passé le concours, j'ai été reçue, j'ai fait la formation d'auxiliaire de péricultrice. J'ai eu un très bon niveau, j'ai eu mon diplôme et la première motivation, vu le stage, hein, parce que dans cette formation, tu fais les stages. Donc, tous mes stages, j'ai choisi la pédiatrie. Et j'ai eu mon diplôme un 28 février et le 2 mars, j'étais déjà embauchée dans le service de pédiatrie. Et aujourd'hui, je ne travaille plus. Comme tu m'as présenté tout à l'heure, fonctionnaire de l'État, ex-employé, auxiliaire de péricultrice en pédiatrie. Là, avec la situation qui s'impose par rapport à mon vécu, au ministère que Dieu m'appelle, et j'ai dû prendre une disponibilité pour servir le peuple martiniquais.
Ah ben oui, justement, aujourd'hui, nous savons que Dieu t'utilise d'une manière puissante dans ce ministère pour lequel il t'a appelé. Est-ce que tu peux nous parler justement de l'appel de Dieu concernant ce ministère?
Alors, très très vite, dans le service de pédiatrie, les enfants qui m'étaient attribués, toujours, comme ça, involontairement, eux, ils disaient, même ma surveillante et mes collègues, mais c'était pas parce que moi, je sais qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu et que ses enfants se trouvaient dans mes lits, c'est que Dieu envoyait ses enfants. Des enfants battus, violés, maltraités, brûlures de cigarettes et tout, j'en passe les détails. Le Seigneur m'a utilisé aussi pour faire un travail de délivrance. Quand j'ai dit délivrance, c'est écouter les souffrances des collègues et puis même les pédiatres, les infirmières. Et puis, très très vite, par des révélations personnelles, dans le cours de la prière, des songes que je recevais, vraiment en toute humilité, peuple martiniquais, écoutez ce que je vais vous dire et invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées, des grandes choses que tu ne connais pas. Jérémie 33, 3. Et au cours d'un vide, même si on est chrétien, la routine prend place très très vite. Je suis membre d'une église. Mon pasteur, je salue mon pasteur, je ne sais pas si des fois il était branché sur internet, et la routine d'église et tout ça, très bonne église, très fière d'être dans cette église et tout ça, et un jour le vide, cours des circonstances, pas au hasard, Dieu avait programmé. J'ai rencontré une fille guadeloupéenne au cours d'un temps de mise à part, et donc cette fille m'a invitée pour venir en Guadeloupe. Et là, en Guadeloupe, j'ai eu un temps de mise à part. Donc, j'ai fait un jeûne de 3 semaines, un jeûne de Daniel. Et au cours de ce jeûne, Dieu m'a donné le fardeau de la Caraïbe. Pendant tout ce temps de jeûne, je voyais dans le songe des gens qui étaient lués dans l'occultisme. Je voyais des sorciers qui travaillaient avec des noms sur les tombes. Le Seigneur m'a montré les chutes du Caobé. Le Seigneur a permis que j'aille à la Soufrière. J'en passe les détails. J'ai dessiné la carte de la Guadeloupe. J'ai pleuré. Je ne pouvais pas supporter les douleurs d'enfantement que je recevais pour le peuple de la Caraïbe. Et très vite, je suis repartie sur Paris. Mais quand je suis arrivée dans mon église, quand je suis arrivée dans mon service de pédiatrie, je n'étais plus pareille. Et j'ai commencé à prier. J'ai une cellule de maison. Hein. Je suis leader d'une cellule de maison, d'une grande cellule de 40 personnes. Très vite, il a fallu faire 2 cellules. Je passe le détail. Dans cette église, j'étais au ménage. Je ne voulais pas faire d'autres fonctions que rester au ménage, malgré que j'étais leader d'une cellule de maison. Mais mon fardeau, c'était tôt ou tard, Seigneur, tu dois m'envoyer travailler dans la Caraïbe. Parce que c'était pas possible que de me lever la nuit, de prier pour Guadeloupe, Martinique, la Dominique, toute la Caraïbe. J'ai affiché une carte Caraïbe dans ma cellule. Je mettais des pastilles sur la Martinique. Oh, je ne connaissais pas la Martinique. Et j'ai prié jusqu'au jour. Dieu a utilisé ce pasteur sur la Guadeloupe. Voilà, je ne donne pas son nom. Et Dieu lui a dit, il faut faire venir cette femme. Et le premier message, la lettre d'invitation qu'il m'a adressée, il m'a dit, « Sœur, je vous demande un séminaire. Le thème, c'est rétablir l'ordre divin dans l'Église. » Quoi, moi, une femme, rétablir l'ordre divin? Je cours vers mon pasteur. Mon pasteur téléphone à ce pasteur. Et ils ont eu un entretien. Une lettre a été adressée à mon pasteur. Et à partir de cela, mon pasteur a compris le travail des disciples, le travail du royaume de Dieu, que Dieu choisit, pas femme, homme ou femme, mais le Seigneur choisit un cœur. Et mon pasteur a compris que ce cœur, pendant ces 3 semaines de jeûne sur la Guadeloupe, c'était un cœur qui avait le fardeau pour le
peuple entier. Et donc, voilà, très vite, j'ai pris l'avion. Et j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas, voici mon cœur. On a demandé de rétablir l'ordre divin. Je ne suis pas capable. Mais par la personne de ton Saint-Esprit, aide-moi. Et nous avons eu un séminaire. Et Dieu a arrosé. Il y a eu beaucoup, beaucoup de délivrance. Et au travers de ce séminaire, j'ai été connue. Et je suis connue, pas moi, mais Jésus en moi. Je sais que ce n'est pas une tâche facile, mais vous, pasteurs qui m'écoutent, je suis là pour vous aider. Des choses que les femmes ne peuvent pas vous dire. Dieu m'a fait grâce. Encore hier, j'ai rencontré pas mal des femmes. Les femmes violées, les femmes battues, les femmes qui ont été violées à l'âge de 9 ans par le père, par des cousins. Attouchement sexuel, beaucoup, beaucoup d'autres blessures. Et chers pasteurs, ces femmes sont dans vos églises. Mais elles ne peuvent pas parler. C'est des samaritaines, pasteurs. C'est des femmes qui ont beaucoup de talents comme moi. Des femmes que Dieu peut utiliser pour faire avancer le royaume de Dieu. Même pour remplir l'église. On n'est pas là pour remplir l'église. Mais Dieu, Jésus-Christ, a utilisé la Samaritaine pour prêcher l'évangile. Dans l'évangile de Jean 4, cette femme qui était une prostituée qui a dit, « Viens et vois, j'ai trouvé celui qui m'a tout dit sur ma vie. » Alors, peuple martiniquais, femme, homme, pasteur, je ne sais pas si je suis l'instrument, si je suis quelqu'un qui est envoyé par la grâce sur ce poste Radio FM Espoir. Mais je veux que le Seigneur utilise ce témoignage et que toi, femme, tu peux aller dire maintenant, après avoir écouté ce témoignage, viens, j'ai entendu. J'ai trouvé une femme au travers de la radio FM Espoir qui m'a tout dit sur ma vie. Mais au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et toi femme, homme, enfant ou adolescente, je ne sais pas si tu es une jeune fille derrière ce poste de radio, cherche Jésus, ne cherche pas un homme, ne cherche pas un pasteur. Oui, Dieu suscite des pasteurs, Dieu suscite des hommes et des femmes comme moi qui ont un vécu, un passé très très dur. Mais je peux vous dire que je suis heureuse aujourd'hui d'avoir un jour connu celui qui m'a tout dit sur ma vie. Et celui-là, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui m'a tendu la main. Mais tu sais quoi, ma sœur? Il a utilisé ma tante, une femme qui avait goûté la délivrance. Une femme qui avait goûté l'Esprit Saint. Celui qui lui avait tout dit. Et cette femme est venue. Et je suis celle qui est envoyée dans la Caraïbe. Au mois de février, j'étais en la Dominique. J'en passe les détails. Il y a de belles choses qui se passent au Lamentin. Ésaïe, le livre, la Bible dit dans plusieurs passages, « Je ne donnerai jamais ma gloire à un être humain sur cette terre. » La gloire revient à Jésus, ma sœur.
Tout à fait. Alors, avant de conclure, peux-tu nous parler de quelques temps forts de ton ministère?
Le Seigneur m'a utilisé dans la vie d'une femme qui était liée et que le diable avait programmé sa mort. Le travail a été fait par le Vaudou Haïti, en Haïti. C'est une femme qui est dominicaine, qui était morte, hein, qui était morte parce que elle vivait, mais son âme était dans une tombe avec un zombie. Et Dieu a délivré cette femme. Dieu m'a utilisé aussi pour nettoyer des maisons, des choses, toujours travailler dans l'occultisme, Mariemé, Kali, Bouddha,
et beaucoup d'autres choses. Dieu m'utilise beaucoup dans les vies aussi des femmes violées, j'insiste. Hein. Des viols, par exemple, une femme qui a 52 ans, qui a été délivrée il y a deux mois, et elle portait un viol commis par son père alors qu'elle avait 9 ans. Elle voulait se tuer. Elle a fait plusieurs tentatives de suicide. Elle est mariée, mariage échoué. Donc, elle victime, sa fille victime et sa petite fille violée aussi. Donc, il y a eu transfert. Donc, c'est spirituel. Hein? Donc, c'est un travail spirituel. Donc, les séminaires que je donne dans les églises à côté des pasteurs, c'est des séminaires sur la délivrance. Donc, mon enseignement, je ne suis pas pasteur ni prédicatrice. Hein? C'est le vécu. Alors, je donne un enseignement dans la parole de Dieu de conduire ces femmes et aider ce pasteur à aller dans le spirituel de couper, de briser la malédiction. Une fois que la malédiction est brisée, la famille est complètement délivrée. Il y a joie, il y a transformation et même je vois même, elles veulent prêcher. Elle dit, je veux sur Suzy, pas à mon pasteur, dire à mon pasteur que je suis délivrée. J'ai dit non, le Seigneur lui-même révélera à ton pasteur. La situation s'impose et ton pasteur viendra te chercher chez toi pour te dire, voilà le micro, prêche la délivrance.
Alors, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Donc, avant même de te demander quel message tu as pour le peuple, avant de conclure, il y a une petite question quand même qui me brûle sur les lèvres. Ton mari, est-ce qu'il t'encourage dans ce ministère?
Alors, mon mari voyage une fois sur trois avec moi. Pourquoi? Parce que j'ai une fille qui sert aussi le Seigneur. Elle est restée en Guadeloupe pendant un an. Au cours de sa formation, elle a fait une formation. Je ne sais pas, je prie pour que le Seigneur vous donne un temps pour accueillir aussi peut-être ma fille. Elle a un message. Alors, parce que donc mon fils, il travaille toujours en déplacement. Donc, concours des circonstances, puisque ma fille, elle est en Guadeloupe. Actuellement, elle est avec moi en mission. Mais je vous aime, peuple martiniquais. Je vous aime beaucoup.
Alors, c'est vrai que notre émission arrive à son terme. Alors,
oui, amen.
Tu as certainement une parole, un message pour le peuple martiniquais, pour les auditeurs et les auditrices. Alors, nous sommes toutes oui. On écoute ce que tu as à nous dire.
Tu es belle. Tu es beau. Alors que tu étais une masse informe dans le ventre de ta mère, le psaume 139, applique-le dans ta vie. Tu étais une masse informe. Je ne crois pas qu'un petit spermatozoïde a fait une grande femme comme vous, un grand monsieur comme toi derrière ce poste de radio. Tu es une créature de Dieu. Et Dieu a un plan pour ta vie. Jérémie 33, 3, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Voilà le message pour toi. Que Dieu te bénisse. Et je vous aime. Je vous aime de tout mon cœur. Mais Jésus vous aime plus que moi. Amen. À bientôt.
Eh bien, Suzy Daniel, nous te remercions pour ta présence, pour ton passage dans les studios de Radio FM Espoir. Et nous ne pouvons que souhaiter la prospérité, l'expansion de tel ministère.
Merci.
Alors que Dieu te bénisse. Bon retour et que Dieu te fortifie dans ton ministère.
Je reçois. Amen. Merci.